Jeudi dernier, nous avons célébré l'Ascension. Et dans une semaine, nous fêterons la Pentecôte. Jésus qui est ressuscité ne s'est pas immédiatement élevé au ciel, mais a passé 40 jours avec ses disciples. L'Ascension a une longue tradition dans l'histoire de l'Église, dont les références apparaissent dans les documentations ecclésiastiques depuis le début du 5e siècle. À cette période, la lecture de Jean chapitre 17 que nous avons lue est traditionnellement appelée la prière sacerdotale. Cela est dû au fait que l'évêque du 5e siècle, Cyril d'Alexandrie, a dit que cette lecture montre que Jésus est le grand prêtre qui intercède pour nous. Ces paroles rapportent que Jésus a fait une prière d'intercession avant d'aller à la croix pour ceux qui seraient laissés sans lui. Tout comme Moïse, face à la mort avant d'entrer dans la terre promise, a donné un message d'adieu au peuple. Les versets 6 à 19 sont la prière de Jésus pour ses disciples. Ces versets sont entre la prière qu'il a faite pour lui-même au verset 1 à 5 et celle qu'il a faite pour les croyants dans l'histoire à venir au verset 20 à 26. Cette prière fervente de Jésus pour ses disciples avant son départ peut être comprise en observant la vie de la communauté des premiers chrétiens à cette époque. Après l'ascension de Jésus, il n'y avait pas de leader défini et surtout, le contexte social n'était pas favorable à la communauté. Elle était persécutée par les autorités extérieures. De plus, il y avait des trahisons à l'intérieur. Le soupçon que quiconque puisse les dénoncer aux autorités juives et romaines causait une grande anxiété au sein de la communauté qui se réunissait en secret. La trahison de Judas Iscariote les avait déjà profondément touchés. C'est dans ce contexte que l'Esprit Saint est venu les rejoindre à la Pentecôte et cet événement a transformé complètement la communauté ecclésiale. Le livre des apôtres, des actes des apôtres d'aujourd'hui décrit un événement qui s'est déroulé entre l'Ascension et la Pentecôte. C'est l'élection d'un nouvel apôtre. Un groupe d'environ 120 personnes s'est réuni pour compléter le corps de disciples blessé par la mort de Judas. La prière qu'ils ont faite avant de voter nous montre qu'ils ont demandé à Dieu de leur dire lequel des deux succédera à l'apostolat et que ce nouvel apôtre soit un témoin de la résolution avec eux. Le contraste ici est entre Judas et Matthias nouvellement élus et nous avons donc besoin de savoir ce qui distingue l'un de l'autre comme témoin de la résurrection. Il y a beaucoup de personnages dans les évangiles, mais Judas est un homme voilé de mystère. Nous savons très peu de choses sur sa vie, de ses motivations concernant la trahison et de sa mort. Nous le voyons seulement comme le disciple qui a vendu Jésus, mais lorsque nous examinons les contextes, les textes de la Bible et les transmissions orales, nous constatons que Judas était une personne beaucoup plus compétente et consciente des questions sociales et historiques que nous ne le pensons. Contrairement aux autres disciples qui étaient originaires de Galilée, Judas est venu en Galilée depuis le sud de la Judée. Comme nous le voyons dans Jean chapitre 7, la Galilée était un lieu de discrimination sociale, appelé l'endroit d'où il ne sort point de prophète. Le fait que Judas se rende dans ce lieu montre qu'il était suffisamment attentif au changement du monde et qu'il était déterminé à en ignorer les préjugés. Il montre également que Judas était avisé sur le plan financier pour être le trésorier et qu'il était un disciple en qui les autres avaient confiance. Mais il a fini par trahir Jésus pour une somme dérisoire et il meurt. Pour le parcours de Matthias est encore plus flou que celui de Judas. Contrairement à Joseph, le candidat à l'apostolat qui avait des surnoms reflétant sa compétence et son talent, Matthias n'était même pas assez bon pour mentionner quoi que ce soit d'autre que son nom. Il n'apparaît d'ailleurs dans la Bible qu'après le texte d'aujourd'hui, de sorte que nous en oublions même qu'il était un apôtre. Mais selon la tradition ecclésiastique, il a voyagé de la Judée à l'Éthiopie, où il a été martyrisé pour avoir prêché l'Évangile. Il existe deux récits de son martyre qui disent qu'il a été crucifié ou qu'il a été lapidé. Quels que soient les faits, il n'en demeure pas moins que Matthias était un apôtre qui, comme les autres apôtres, a vécu la mission évangélique jusqu'au bout. Bien qu'il ne soit plus mentionné dans la Bible, il faisait partie de l'équipe des 12 qui s'est mise au service de la communauté. Il est donc possible de faire la distinction entre Judas et Matthias en se référant au mot grec martyrs que l'on traduit par témoin. Ce mot désigne ce qui entend, confesse et témoigne de la bonne nouvelle de la crucifixion et de la résurrection du Christ, comme le rapporte l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 48. C'est aussi ce mot et la racine du mot martyr. Jusqu'au deuxième siècle, les témoins de Christ étaient ceux qui suivaient le Christ jusqu'à la mort. Ce point de vie et de mort, mourir pour qui, séparait Judas et Matthias. Judas voulait un messie à sa demeure. Dans la société israélienne de l'époque, il y avait des nationalistes qui voulaient renverser l'Empire romain par la force et obtenir l'indépendance. Ils attendaient un messie qui jugerait cet empire en faveur d'Israël et de la loi. À 16 ans, à ses hommes. Jésus demandait d'aimer leurs ennemis, de rendre à César ce qui est à César, et il fréquentait les collecteurs d'impôts qui collaboraient avec l'Empire romain. Pour eux, Jésus, qui ne respectait pas le sabbat et changeait le sens de la loi, n'était donc qu'un rabbin incompréhensible et un faux messie qui tromperait le peuple. Le messie que Judas désirait et voyait en Jésus était celui qui ressuscitait les morts, celui qui rendait la vie aux aveugles, celui qui accomplissait le miracle des multiplications des pains. Le messie qu'il attendait était celui qui défierait de front la persécution de ses ennemis, qui mobiliserait les armées du ciel pour les détruire et établir le royaume de Dieu sur la terre. Mais à la fin, ce Messie a annoncé qu'il ne se sauverait pas lui-même. Ce dont Israël avait besoin, c'était du sang des Romains. Mais Jésus a dit qu'il verserait son propre sang. Devant le fait que Jésus acceptait la peine de mort, la mort maudite sur la croix, Judas a finalement tout abandonné. Lorsque l'homme abandonne, Dieu n'y est pour rien. En réalité, du point de vue de Dieu, Judas et Pierre sont la même personne. Après l'arrestation de Jésus, Pierre a renié Jésus 3 fois et les autres disciples se sont dispersés. À l'exception du fait qu'ils n'ont pas vendu Jésus, les raisons pour lesquelles les disciples ont suivi Jésus n'étaient pas très différentes de celles de Judas. Ils voulaient que leur vie soit couronnée de succès et que le royaume d'Israël remplace l'Empire romain. Or, contrairement à Judas, les autres disciples ont suivi le chemin du témoin. Cela était possible parce que ils se sont rendus compte que c'était eux qui avaient abandonné Jésus. Ils ont réalisé que c'était eux qui avaient crucifié Jésus. Lorsque les paroles de la prophétie se sont réalisées, ils s'étaient terrifiés et pleuraient. Seuls ceux qui pleurent, crient et souffrent et qui refusent d'abandonner pour passer à la lumière du Christ en quittant le monde dans lequel la mort a le pouvoir. C'est ainsi que les apôtres ont vécu en tant que témoins de la croix et de la résurrection. Certains arbres sont grands et beaux en plein soleil, d'autres sont maigres à l'ombre, mais ce sont toutes des vies uniques qui ont leurs missions à accomplir. En créant chaque vie différente et unique, Dieu a montré que tous les individus sont égaux. Ce que Dieu attend de ces vies, c'est qu'elles continuent sans abandonner. Ce chemin est parfois difficile et déchirant. C'est pourquoi Jésus a prié pour ses disciples avant d'aller sur la croix. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, il est écrit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Ne luttons pas contre nos peurs pour les vaincre, mais si nous sommes troublés, acceptons d'être troublés, car c'est celui qui est mort pour nous et ressuscité qui prie pour nous. Si nous croyons à ses promesses, je ne vous laisserai pas mourir. Je demeurerai en vous. Alors, nous vivrons. Ceux qui connaissent l'amour qui a donné son Fils sans s'épargner n'abandonnent pas le chemin. Je souhaite que cet amour soit avec chacun de nous d'aujourd'hui, en marchant avec l'Esprit Saint sur le chemin de témoin et de la résolution. Amen.